Julia Trangeval.
Bonjour, nous marchons dans les pas de Frantz Fanon cette semaine. L'itinéraire du psychiatre et écrivain a été fortement marqué par l'Algérie coloniale. Arrivé français en Algérie, il en repart en 1957. À ce moment-là, il est devenu algérien, citoyen d'un État qui n'existe pas encore. On célèbre cette année le 100e anniversaire de la naissance de Frantz Fanon. Un siècle après, ses travaux, sa pensée ont-ils toujours une influence en Algérie ou en Tunisie, où il vécut 4 ans?
Un peuple qui entreprend une lutte de libération légitime rarement le racisme. Même au cours des périodes aiguës de lutte armée insurrectionnelle, on n'assiste jamais à la prise en masse de justifications biologiques. La lutte de l'infériorisé se situe à un niveau nettement plus humain. Les perspectives sont radicalement nouvelles. C'est l'opposition désormais classique des luttes de conquête et des luttes de libération.
En Tunisie, l'héritage de Frantz Fanon connaît un renouveau. Cela est dû en grande partie à l'actualité, la guerre à Gaza, les études décoloniales. L'écrivain est de nouveau au centre des discussions de chercheurs et de militants qui s'approprient sa pensée. Un colloque s'est tenu à Tunis à l'occasion de son centenaire cette année. Un reportage de Lilia Blaise.
En Tunisie, peu de traces de Frantz Fanon sont visibles, si ce n'est à travers un colloque qui a eu lieu en février à l'occasion de son centenaire. Une opportunité pour de nombreux chercheurs et historiens de rappeler l'héritage laissé par le psychiatre, comme l'historienne Kmar Bendana, auteur de l'article sur les traces de Frantz Fanon à Tunis.
Il y a une notoriété internationale de Fanon et la Tunisie est ouverte aussi à l'international. L'actualité aussi refait sortir les analyses de Fanon, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait une continuité dans les traces de Fanon depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Quand on voit par exemple ce qu'est l'exercice de la psychiatrie, d'après quelques témoignages, on n'a pas du tout l'impression qu'il a laissé des méthodes durables, qu'il a laissé aussi des postures en héritage, etc.
Fanon a passé 4 ans de sa vie à Tunis après avoir dû fuir l'Algérie à cause de son engagement au Front de Libération Nationale pendant la guerre d'indépendance. Il exerce à l'hôpital Charles-Nicolle entre 1957 et 1961 et rédige une grande partie de son essai anticolonialiste « Les damnés de la terre ». Mais ensuite, le corps médical et intellectuel de l'époque délaisse son héritage et ses méthodes.
Il n'a pas eu de compagnon tunisien. Il a travaillé avec des infirmiers très dévoués, qu'il a beaucoup marqué, qui en parlent encore. Mais il n'a pas laissé de traces dans la profession elle-même, probablement parce qu'il était un peu isolé comme médecin français et noir, je pense.
Pour l'anthropologue Lia Labidi, les multiples casquettes de ce penseur, à la fois psychiatre, militant, anthropologue et sociologue, ont créé des réticences, voire de la méfiance.
Pourquoi Fanon est-il absent de l'histoire de la médecine? Parce qu'il ne voyait pas dans le malade que simplement le symptôme, mais également les problèmes sociaux, etc. Les conditions à la fois du sujet, mais du pays, parce que l'un reflète l'autre. À ce moment-là, d'abord, le pays, il y avait très très peu de médecins, les gens étaient noyés dans les pathologies à traiter, parce que aussi, la médecine tunisienne est cloisonnée. Elle n'est absolument pas ouverte sur la pluridisciplinarité. Pour qu'il soit connu, il faudrait que les gens en parlent dans le milieu. Mais il est totalement absent également de l'enseignement sociologique, psychologique, en psychologie. Il n'est pas étudié.
Aujourd'hui, le mouvement de réappropriation émane surtout de chercheurs et de militants qui veulent réhabiliter sa mémoire, car beaucoup voient une actualité dans ces combats. Une démarche qui a démarré depuis les soulèvements du printemps arabe en 2011 et qui doit continuer, selon Kmar Bendana.
Moi, je pense que c'est vraiment en le relisant vraiment, c'est-à-dire en comprenant le sens de son travail, en comprenant aussi comment ses écrits étaient branchés sur la réalité de l'époque, en comprenant aussi que son exercice de la médecine était une attitude humaniste, était une attitude aussi de combat, que même son ralliement à la cause algérienne, c'était ce qu'il incarnait d'une certaine façon. Il a choisi un camp contre la France, son pays d'origine, etc. Mais c'était une forme d'affirmation contre l'injustice que la France faisait à l'Algérie. Moi, je pense à revenir à l'homme lui-même, à revenir aussi à la sincérité de son combat et à l'ancrage de son combat dans son temps et dans le travail qu'il avait à faire à cette époque-là.
Un ancrage que beaucoup redécouvrent, puisque deux films, l'un algérien, l'autre français, sortent en salle cette année et un nouveau colloque pour son centenaire aura lieu au Maroc fin juin.
Aux colonies. L'interlocuteur du colonisé est le gendarme ou le soldat. Le monde colonisé est un monde coupé en deux.
Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains ?
Ce sont des hommes comme vous et moi.
Ah, mais comment vous voulez changer les choses, ici en Algérie ?
Ici comme ailleurs.
Monsieur Fanon, je travaille avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée.
L'Algérie va façonner la pensée de Frantz Fanon et à l'inverse, à travers ses écrits, Frantz Fanon contribuera à transformer la guerre d'indépendance algérienne en symbole mondial de résistance à la domination. Retour sur ces années algériennes avec l'historien Pierre-Jean Le Foll-Luciani.
On pourrait penser que l'Algérie commence à jouer un rôle dans son parcours en 1953, car à la fin de l'année 53, quand il arrive à l'hôpital psychiatrique de Blida, en tant que médecin-chef. Mais en fait, l'Algérie est présente antérieurement dans son parcours, puisqu'il a eu des premiers contacts avec le Maghreb en général et avec l'Algérie en particulier, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il était engagé dans les forces françaises libres, et il s'est retrouvé sur le sol algérien dans le courant de l'année 1944. Et puis, par la suite, on peut dire qu'il a eu également un contact avec l'Algérie, ou plutôt avec des Algériens, dans sa formation de psychiatre, en particulier à Lyon, où il était étudiant, puisqu'il a eu l'occasion de soigner des Algériens, notamment des travailleurs immigrés algériens, sur lesquels il a d'ailleurs publié un article dès l'année 1952.
Ça, c'est pour tout ce qui va précéder son arrivée à Blida. Est-ce que ça va avoir une influence dès son arrivée ? Est-ce que quelque chose va être modifié dans sa pratique par justement ses contacts antérieurs ?
Bon, c'est probable qu'il avait déjà, avant d'arriver à Blida, une idée sur ce que pouvait être une psychiatrie en contexte colonial. Et ça rejoignait bon, par ailleurs sa pratique de psychiatre qu'il avait acquise auprès du docteur Toscaliès de social thérapie, psychothérapie institutionnelle, qui visait en particulier à prendre en compte les contextes sociaux et contextes culturels des patients pour mieux les soigner. Et cette pratique, disons, pour lui, hein, pouvait avoir une application particulièrement intéressante en contexte colonial, puisqu'il écrivait par exemple dans Les damnés de la terre, un peu plus tard, en 1961, « La vérité est que la colonisation, dans son essence, se présentait déjà comme une grande pourvoyeuse des hôpitaux psychiatriques. »
Qu'un médecin martiniquais vienne prendre un poste important à Blida, médecin-chef dans un hôpital psychiatrique, c'était quelque chose qui était habituel dans la France coloniale d'alors ?
Alors, c'était vraiment pas rien qu'un médecin martiniquais noir soit à la tête d'un service, en particulier en contexte colonial, en Algérie coloniale. Bon, il a certainement subi du racisme en Algérie à son arrivée, et certains de ses collègues de l'époque et qui l'ont côtoyé disaient que le simple fait qu'il soit à la tête du service était une sorte d'affront à la domination coloniale.
Il va se battre donc contre les présupposés racistes de la psychiatrie coloniale, mais quand il arrive en 53, la guerre n'est pas encore déclarée, la guerre d'indépendance, et puis voilà, le 1er novembre 54, il est en Algérie, et là il y a un basculement aussi.
Oui, et certainement que le basculement est très rapide chez lui, parce que parfois les chronologies des engagements par rapport au début des événements peuvent être un petit peu distordues. Mais dans son cas, bon, déjà, il faut souligner que dans un ouvrage, son premier ouvrage, Peau noire, masque blanc, qui est paru en 1952, donc quelques mois avant son arrivée en Algérie, dans la conclusion de cet ouvrage, il fait l'éloge des combattants armés vietnamiens, du Viet Minh. Donc la possibilité d'une lutte armée et la légitimité d'une lutte armée décoloniale, elle est
déjà présente
pour lui. Voilà. Et donc, effectivement, il arrive en novembre 1953 à Blida et l'insurrection démarre en novembre 1954. Et le basculement se fait sans doute très rapidement. Bon, déjà, dans l'année qui a précédé, c'est-à-dire sa première année en Algérie, il côtoie à l'hôpital psychiatrique de Blida des médecins, des internes, des infirmiers, des agents qui sont engagés dans le mouvement anticolonialiste, soit parmi les communistes, soit parmi les nationalistes. Et c'est certainement par le biais de ses contacts à l'hôpital lui-même ou plus largement dans son entourage qu'il va entrer, sans doute dès les premiers mois de l'insurrection, en contact avec des membres du FLN.
Mais il ne prendra jamais le maquis.
Non, il n'a jamais pris le maquis. Alors, il semblerait que quand il est tombé malade et qu'il a su qu'il avait une leucémie, donc dans l'année 1960 en particulier, il aurait demandé à rejoindre le maquis parce qu'il savait qu'il était condamné à brève échéance. Mais visiblement, des cadres de l'armée de libération nationale ne lui auraient pas autorisé.
Il va devenir une sorte d'ambassadeur itinérant du FLN après, peut-être justement une fois que sa leucémie est diagnostiquée, me semble-t-il.
Oui, alors c'est un peu avant parce qu'il vit 3 ans sur le sol algérien, donc entre la fin 53 et le début de l'année 57. Il est expulsé d'Algérie par les autorités françaises en 1957. Il rejoint alors Tunis. Et effectivement, c'est après quelques mois à Tunis, où il travaille comme psychiatre, mais aussi comme journaliste, on peut dire, pour la presse du FLN, qu'il va prendre ce rôle d'ambassadeur du gouvernement provisoire de la République algérienne et ambassadeur en Afrique subsaharienne en particulier.
On voit que l'Algérie va jouer un rôle dans son parcours, mais lui va jouer un rôle dans la résonance de la révolution algérienne. Son engagement va donner une toute autre dimension à cette guerre d'indépendance.
C'est vrai qu'il fait partie des intellectuels algériens, parce qu'il se considère comme tel, en fait. Alors, à partir de quand exactement, je ne sais pas, mais dans le courant de la guerre d'indépendance, il fait partie des intellectuels algériens qui vont porter la voix de ce qu'il appelle la révolution algérienne. Alors, par les articles, alors qu'il écrit plutôt de manière anonyme dans la presse du FLN, et puis par la parution en 1959 de son deuxième ouvrage, L'an 5 de la Révolution algérienne, qui se veut une analyse de ce que produit la lutte de libération nationale et la lutte armée en particulier sur la société algérienne d'un point de vue collectif et d'un point de vue individuel. Alors c'est un ouvrage qui est interdit, qui est censuré, mais qui va circuler et qui va avoir une résonance effectivement dès ce moment-là. Et plus encore, son troisième ouvrage, Les damnés de la terre, donc qui est son ouvrage écrit à la veille de sa mort, va avoir une résonance considérable.
C'est un ouvrage dans lequel il justifie le recours à la violence face à un État colonial qui est violent, qui va avoir beaucoup de retard. Qu'il y en a toujours beaucoup.
Oui, cet ouvrage, il a été très approprié, je dirais. Bien sûr, d'abord dans les mouvements de décolonisation à proprement parler, donc par des mouvements anticolonialistes. Et puis, il a aussi beaucoup circulé parmi des groupes et des militants qui vivaient à divers titres une situation d'oppression. Et d'ailleurs, pas toujours une situation d'oppression raciale, parfois aussi une situation d'oppression culturelle. Bref, des groupes minoritaires qui se sont reconnus dans tout ou partie de ce que Fanon a écrit.
Frantz Fanon meurt, il ne voit pas la fin de la guerre d'indépendance algérienne. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il a laissé un héritage ? Est-ce que son nom signifie toujours quelque chose en Algérie ?
Alors, sur ce qu'il signifie toujours son nom en Algérie, j'aurais du mal à vous répondre. Mais ce qui est certain, c'est que son nom, il est présent dans des noms de rues, il est présent dans des noms d'institutions, de bibliothèques, etc. Mais en fait, c'est vrai que Frantz Fanon, dans Les damnés de la terre, ça a été un analyste non seulement du processus de libération de la domination coloniale, mais il réfléchissait aussi déjà dès 1960-1961 aux limites du processus de décolonisation et aux dangers de ce qu'il appelait le néocolonialisme. Et un des points qu'il mettait en avant, c'est comment un parti politique, un mouvement politique ou armé qui a mené la lutte de libération nationale peut, en l'espace de quelques mois, devenir une structure d'oppression à l'égard de sa propre population. Par exemple, le fait qu'un parti politique se transformait, il le disait, en partie de fonctionnaire et en service de renseignement. Et alors évidemment, cette critique qu'il faisait là, il la faisait au regard de ce qu'il percevait déjà d'un certain nombre de processus d'indépendance en Afrique, mais on voit bien comment on peut l'appliquer au FLN. C'est d'ailleurs pourquoi l'héritage de Fanon peut être en partie gênant pour le gouvernement algérien ou les gouvernements algériens qui se sont succédés depuis l'indépendance.
Pierre-Jean Le Foll-Luciani, historien, auteur de « Se déprendre de la France, s'éprendre de l'Afrique, Frantz Fanon et le refus des identités assignées », dans « Le panafricanisme en question, relire Nkrumah et Fanon pour le XXIe siècle », c'est un ouvrage publié aux Presses universitaires de la Méditerranée. Le Seigneur des Rats, c'est une bande dessinée publiée chez Alif Bata, au dessin Z, connu pour ses caricatures du régime Ben Ali hier et de Kais Saied aujourd'hui, et pour le scénario, la nouvelle éponyme, écrite en 1976 par Gilbert Nakache, figure emblématique de la gauche tunisienne, mort en 2020. Le Seigneur des Rats, c'est l'histoire de l'émergence d'un pouvoir totalitaire sur fond de crise sanitaire. Z est avec nous en studio pour en parler. Bonjour Z.
Bonjour.
Comment est né ce projet ?
Le projet du Seigneur des Rats est d'abord né du fait que je me suis lié d'amitié avec Gilbert Nakache et qu'on a eu le temps de réfléchir même les deux premières planches. Malheureusement, entre-temps, il est parti. Hein, il est décédé en 2020, ce qui nous a un peu permis déjà d'avoir la base de ce qu'allait être l'actuel bande dessinée.
On rappelle, Gilbert Nakache, c'était un opposant historique des années Bourguiba qui a écrit cette nouvelle, Le Seigneur des Rats, alors qu'il était en prison.
Alors, on a l'impression que l'histoire se répète, puisque l'écriture ou le roman carcéral est presque une tradition, malheureusement, en Tunisie. Et Gilbert Nakache, qu'on appelle affectueusement Papy, parce qu'il est très populaire auprès d'une grande jeunesse, un peu de gauche, on va dire, avait effectivement écrit ça quand il était en prison, à cause de ses idées politiques et surtout contre la dictature.
Vous vouliez d'amitié, vous décidez ensemble de transformer cette nouvelle en bande dessinée. Qu'est-ce qui vous amène à vous dire cette histoire-là, elle vaut d'être racontée encore aujourd'hui ?
Il y avait quelque chose avec cette nouvelle qui résonnait déjà avec ce que nous vivions. Et comme il était question de rats et que les rats sont une métaphore de tout ce qui peut sortir des murs et qu'on ne voit pas et qui finit par envahir la maison, l'immeuble, la rue, puis la ville, puis le pays, ben je sais pas, pour nous Tunisiens, ça nous parlera toujours, ce genre de récit.
Quand vous décidez donc de travailler sur ce projet, vous êtes déjà un dessinateur anonyme mais très connu en Tunisie. Vous avez été une des plumes féroces contre le régime Ben Ali. Vous avez repris la plume aujourd'hui alors que Kais Saied est au pouvoir. C'est une autre façon d'aller explorer le réel, le monde dans lequel on vit.
Alors pour vous dire la vérité, oui, la Tunisie, j'ai toujours couvert ça par la caricature, mais cette nouvelle était aussi l'occasion de s'universaliser un petit peu. Parce que nous, Tunisiens, nous avons toujours l'impression de nous parler entre nous. Et cette nouvelle de Gilbert Nakache pouvait pour une fois parler à plus de gens. Donc il fallait se renouveler par ce défi, il fallait se réinventer, inventer presque un nouveau style graphique. Et puis écrire, parce qu'il était question d'adapter une nouvelle et de me mettre aussi à l'écriture de manière sérieuse.
Ça se voit, hein, on reconnaît votre style, mais pas complètement. Il y a une alternance entre un noir et blanc, qui est en fait un noir et jaunâtre, et puis des couleurs pastel sur le bord d'une plage. Ça a été une recherche un petit peu longue ?
Ça a été une recherche, et surtout beaucoup d'allers-retours avec l'éditrice, que je salue au passage, qui était très patiente avec moi, pour qu'on puisse trouver la bonne palette et qu'on puisse être sûr que ce que nous voyons depuis nos écrans allait ressembler à ce que nous allions voir sur du papier. Donc oui, c'était un énorme effort. J'ai dû oublier tous mes réflexes de dessinateur, de coloriste et recommencer à zéro.
Quand on lit le livre, on pense tout de suite aux catastrophes naturelles, aux catastrophes écologiques qui touchent aujourd'hui le monde. On pense à l'Amérique de Donald Trump. On pense à la Tunisie, donc aussi.
Effectivement, ça parle quand même d'une crise sanitaire, toute cette histoire de rats. Alors, ça a été imaginé en 1976, mais en réalité, ça parle beaucoup aux citoyens contemporains aujourd'hui. Et surtout l'idée qu'une crise sanitaire peut rendre fou un État et peut nous faire basculer dans une dictature. L'occasion de rappeler que nous autres Tunisiens, quand même, c'est suite à la crise sanitaire que nous sommes passés en dictature. Donc pour nous Tunisiens, c'est étonnant que cette bande dessinée sorte maintenant.
Vous la publiez également en Tunisie.
Alors il était nécessaire, important pour Gilbert Nakache de publier tout en Tunisie d'abord et au prix tunisien. C'est pour ça que cette édition est une coédition avec un éditeur tunisien qui a imprimé en Tunisie et qui a réussi à vendre ça au prix tunisien pour qu'elle soit accessible aux Tunisiens. Elle marche très bien selon l'éditeur Nirvana, que je salue aussi. Et le public tunisien, pour nous, est, j'ai envie de dire, un public qui nous connaît. Donc on arrive très facilement quelque part à vendre, j'aime pas le mot, mais au moins à faire parvenir cette bande dessinée. Bon, à nous maintenant d'essayer de toucher le public français plus, si possible.
Merci beaucoup, Zed.
Merci beaucoup.
Carrefour du Maghreb à la réalisation Françoise Grelot. À bientôt.